tu viens d'entendre passer un Grad, c'est un camion militaire avec des missiles en fait à l'arrière. Et c'est un équipement militaire qui permet de mener ces combats d'artillerie extrêmement lourds qui se vivent ici à Kharkiv.
Bonjour, je suis Yves Pulici et pour ce 17e épisode du service reportage, après presque 3 mois de guerre, on a décidé de casser le format, de donner carte blanche à un reporter que l'on apprécie beaucoup, Juan Palencia, qui avec Jérémy Père nous a envoyé pendant sa 4e mission en Ukraine des audios tous les jours, des témoignages bruts que nous avons décidé de vous présenter tels quels pour ce format exceptionnel. Bienvenue au service reportage de BFM TV.
Salut Yves, nous sommes actuellement dans le village de Tchelkouni, c'est à l'est de Kharkiv en fait. Donc on est arrivé il y a quelques heures, on est un peu tendu parce qu'on vient de croiser des snipers russes au loin. Des soldats sont venus en courant nous dire attention, raser les murs, les snipers de l'autre côté. Tchelkouni c'est un village qui est à peu près à 4 km de la ligne de front, 3 km de la ligne de front. On arrive sur place, on fait les bus d'évacuation. Ces fameux bus jaunes qu'on voyait à Irpin notamment, c'est un peu les mêmes ici. Jusqu'à présent, ces personnes-là n'auraient pas pu être évacuées parce qu'ils avaient très peur des bombardements. Ils ont été incessants à cet endroit en fait. Il y a eu certains jours jusqu'à une cinquantaine de bombardements dans cette région, dans cette oblast de Kharkiv. Certains voulaient rester mais ne pouvaient plus supporter ce genre de choses quoi. C'est traumatisé. Donc ils prennent ces bus d'évacuation. Et là on rebrousse chemin parce que juste avant, on a croisé une position russe, vraisemblablement des snipers ont tourné et un bombardement justement et des militaires ukrainiens sont venus nous voir pour nous dire partez, rasez les murs, il y a des snipers juste à côté, traverser la route en courant. Voilà, c'était un peu tendu. Et on est allé un peu trop près des Russes et on n'a pas des roubles donc on a dû faire demi-tour. On sort de Tchelkouni et aujourd'hui c'est une grosse journée de tournage puisque maintenant on va aller retrouver des procureurs de Kharkiv. Je ne sais pas si tu t'en souviens, à Kiev on a suivi un procureur de guerre qui avait une pelle et qui déterrait lui-même les preuves, les balles, les corps parfois. Aujourd'hui là on va suivre des procureurs de Kharkiv, c'est des procureurs d'artillerie, c'est-à-dire que la guerre ici est un peu différente puisque c'est beaucoup d'artillerie et très très lourde et en permanence. Donc si vous en souvenez, Kharkiv était frappé quotidiennement, pilonné quotidiennement, jusqu'à 50 frappes par jour dans la région. Et ces procureurs donc, ils ont des protections comme tous les procureurs qui vont sur le terrain. Donc aujourd'hui ils ont l'ego pour aller dans une ville qui est à environ 7 km du front. On va aller avec eux, on va aller constater des gens qui ont été tués par l'artillerie russe. Il y aurait des commandants qui auraient ordonné à certains avions et à certains bataillons d'artillerie de tirer sur des habitations civiles. Et ils sont en train d'investiguer là-dessus. Donc on va aller avec eux, notamment exhumer des corps qui auraient été tués par cette artillerie. Bah, raconte un peu ta journée, les évacués.
T'as raconté quoi déjà?
J'ai raconté tout quand on est prévu de l'aide.
On a suivi une famille, on a suivi une vieille personne âgée qui était en fauteuil roulant, qui elle aussi est partie parce que la veille, ils avaient été bombardés. On a croisé une femme, qui était sa fille, qui elle avait les larmes aux yeux, comme si elle était soulagée, un peu sous le choc de ce qui s'était passé hier. Mais ce qui lui faisait le plus peur, c'est qu'ils allaient les emmener à Kharkiv, mais qu'ils avaient personne, ils ne connaissaient personne, ils ne savaient pas où ils allaient aller. C'était ça qui était vraisemblablement le plus dur pour elle, avec sa mère qui était donc handicapée en fauteuil roulant, très âgée, mais ils se sentaient aussi un peu en sécurité. C'est des sentiments très partagés, je pense, qu'il y avait dans leur tête. Les Russes ont occupé donc ces villages. Il y a eu énormément de combats d'artillerie. On a rencontré une femme qui était avec des ouvriers dans une toute petite maison. Il y avait deux maisons, toutes très petites. L'une était complètement détruite parce qu'elle avait été touchée par une frappe le 9 mai. Et on lui demande, mais alors pourquoi vous voulez rester là? Parce que moi, j'ai pas d'autre chemin où aller. Je sais pas où aller. On reste là, on a encore des vivres. Et juste à 5 mètres d'elle, il y avait des soldats russes, un checkpoint russe. Elle a pu discuter avec eux, très peu évidemment, mais elle a quand même discuté avec eux. Ces soldats venaient du Donbass russe et ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là. Et ils n'ont pas vraiment commis d'exaction dans ces coins-là, mais ils y sont restés près de 2 mois. Une cohabitation étrange, nous disait-elle. Elle se sentait plutôt en sécurité, justement. Ce qu'on a vu dans ces villages, c'est que tout reste très précaire, que l'armée ukrainienne, certes, reprend énormément de choses et de villages dans ce coin, mais les Russes peuvent toujours bombarder, ils peuvent plus toucher Kharkiv, mais ils bombardent toujours ces petits villages qui sont à quelques kilomètres seulement de Kharkiv.
Là, j'enlève les petits morceaux d'obus, enfin les éclats d'obus qui peuvent potentiellement faire crever les roues de notre voiture. Voilà, par exemple, c'est ce qu'il faut faire des fois.
Yeah, I just call him. Maybe he is busy or something.
Max est en train d'arranger un rendez-vous avec les procureurs qui viennent nous récupérer à côté d'une station essence qui a été totalement bombardée. Comme les images qu'on a vues près de Kiev, des stations de service qui ont été prises pour cible pour empêcher l'approvisionnement en carburant aux troupes ukrainiennes et russes aussi. Donc on ne sait pas exactement si c'était une frappe russe ou ukrainienne.
On est donc devant cette station essence, là où les Russes étaient, ou sont avancés en tout cas jusqu'au maximum. Quand on regarde devant nous, c'est la Russie. Quand on regarde derrière nous, c'est le quartier de Saltivka. Il faut imaginer des grandes barres HLM, et il y en a beaucoup parce que c'est un quartier dortoir de Kharkiv. Il doit à peu près y avoir 500 000 habitants, donc il y a des dizaines et des dizaines d'immeubles. C'est un des quartiers qui, selon les habitants ici, selon les autorités locales, a été un des quartiers les plus bombardés d'Ukraine. Et on voit ces barres d'immeubles qui sont éventrées, qui sont noircies par les incendies qui ont suivi les bombardements. Il n'y a plus grand monde à l'intérieur. On avait fait un reportage là-bas. On avait rencontré un vieil homme de 82 ans qui, lui, restait là, qui était d'ailleurs né en Russie. Sa mère avait vécu le siège de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se demandait, mais pourquoi nous, qui avons autant de liens avec les Russes, ils nous font ça ici? Une situation très particulière dans ce quartier qui est pour l'instant, depuis 3-4 jours, préservé des bombardements parce que l'armée russe a reculé, que les Ukrainiens ont fait reculer les positions d'artillerie russe. Mais ce qui leur fait un peu peur, c'est que selon des images satellites, l'armée russe se repositionne et amène encore plus d'hommes du côté de Belgorod qui est à 30 ou 40 km d'ici.
Et au fond, peut-être, vous entendez de temps en temps des bombardements en fait là. Les bombardements incessants. Depuis à peu près 3 heures, il y en a très régulièrement. Difficile à dire pour nous si c'est des tirs de réponse des Russes ou des tirs ukrainiens. Et par contre, les gens qu'on a pu croiser nous ont dit, à force de vivre sous les bombardements, on apprend à distinguer lesquels c'est les Russes et lesquels c'est les Ukrainiens.
Salut Yves. Bon là, nous sommes avec l'un des procureurs de Kharkiv. Je pars doucement parce qu'ils viennent déterrer les corps des 3 personnes, dont une jeune qui aurait été prise pour cible par un chat russe au début de la guerre. Ces corps ont un état de décomposition assez avancé. Une scène terrible, il y a des proches qui viennent reconnaître les corps. Et on suit ces procureurs qui portent un gilet pare-balles, un casque et son petit carnet avec les symboles du ministère de la Justice en fait. Et ils se déplacent là où on est actuellement. On est juste à côté d'une position d'artillerie, donc en fait ça tire tout le temps. On s'est pris un tir des Russes tout à l'heure, pas trop loin. Et on entend les départs des feux ukrainiens qui départ qui se trouvent juste à vraiment une centaine de mètres à peine. En fait, on voit la fumée comme ça tire. C'est assez impressionnant, il est juste à côté de moi, il prend des photos, tout le monde prend des photos, c'est une grande équipe et tout est sécurisé par l'armée avant qu'il puisse venir, mais il faut savoir qu'on est juste à quelques kilomètres de la ligne de front, une dizaine maximum, donc c'est très compliqué. Les proches sont à côté et qu'on ne veut pas trop le déranger, ils étaient en train de déplorer. Et cet immeuble, c'était une maison dans laquelle se réfugiaient une vingtaine de personnes. Et elle a reçu cette frappe et dans cette frappe, 3 personnes sont mortes en fait avec des éclats. Et ils sont en train de d'établir un peu les circonstances de leur décès, de leur mort. Et la maison est quasiment détruite en fait. Tout le premier étage est complètement détruit, brûlé. Et le reste du temps, les gens qui sont restés dans cette maison se sont réfugiés dans une cave et entourés par les chars. Et puis ils entendaient, ils se prenaient souvent des tirs d'artillerie en fait des deux côtés, surtout de côté russe visiblement.
Ça, c'est un peu ce que l'on entend tous les jours ici à Kharkiv depuis qu'on est là. Ce sont des tirs des grades. Ils appellent ça, c'est des camions qui lancent des roquettes sur les positions russes. Et c'est le bruit constant. Et ça, ce sont des tirs d'artillerie que l'on entend donc depuis Kharkiv qui visent les positions russes qui sont à 15 km au nord-est de Kharkiv. Les Russes ont reculé. Et ce que l'on voit devant nous, ce sont dans des quartiers, on est au nord-est, mais à l'intérieur de Kharkiv et on voit des gens qui sont en train de faire leur marché. C'est comme si ce bruit était dans leur quotidien maintenant et qu'ils n'y faisaient plus vraiment attention. Là, on avait rendez-vous avec un volontaire qui devait être escorté par l'armée pour aller dans une ville qui est à une heure d'ici, au nord-est, qui est à côté d'un lac. De l'autre côté du lac, il y a les positions russes. Ils ont besoin de nourriture, mais pour l'instant, ça fait près de 2 heures qu'on attend. Et pour l'instant, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. L'armée patiente. Et le volontaire nous dit que pour l'instant, rien n'est réuni pour y aller, donc on attend.
Salut Yves, donc je te fais un petit question d'ambiance. On est dans un quartier à l'est de Kharkiv. Vous imaginez un petit peu un quartier qui était vide il y a quelques jours et comme les troupes russes se sont éloignées, les gens ont pu revenir. Donc il faut imaginer un quartier avec quasiment toutes les montures détruites, encore des éclats, des trous par terre, il n'y a pas de feu. Puis on roule à contresens parfois, et il y a des checkpoints partout à cet endroit où on est, et les gens commencent tout juste à revenir. Donc là, je marche dans un marché où il y a encore des patates, des oignons, des pommes, quelques concombres, et les gens font la queue. Pas trop loin, il y a aussi des centres d'aide humanitaire où en gros les gens viennent pour trouver quelque chose à manger, puisqu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Parfois, certains ont perdu leur maison. Donc là, je suis dans un marché où les gens font leurs courses. Je vais te mettre quelques ambiances pour que tu entendes.
Il y a quelques cyclistes en fait aussi qui commencent à revenir. J'ai pu en photographier quelques-uns. La ville est vide. Et t'as des cyclistes un peu au maillot de l'Ukraine qui se baladent avec des vélos de course dans toute la ville. Et les principales routes de Kharkiv en fait sont toutes comme taillées hein, par des empreintes de chars en fait qui ont dû rouler par ici. C'est comme des petites stries.
C'est un peu étonnant. Il y a des tranchées au milieu des quartiers. Il y a sans doute des combats de rue par ici puisque les Russes sont arrivés à l'entrée de Kharkiv en fait. Certains témoins disent que quand ils sont arrivés, ils pensaient prendre la ville tellement vite qu'ils ont même mis un soldat à faire de la circulation pour les bagnoles en fait, et il s'est fait dégommer assez vite. Et là, on passe juste à côté des tranchées qui ont été un peu creusées, visiblement à la hâte, par des sortes de bulldozers qui ont été creusés à côté de la route en fait, sur laquelle on roule. Et les gens ont plein de sacs de nourriture, ils refont les pleins, mais restent chez eux en tout cas.
Буквально, наверное, две недели он попал под оккупацию.
Salut Yves. Pour le contexte, en fait, on est sur le périphérique de Kharkiv avec un Andrei, un volontaire. Il a pris son camion et il a décidé lui-même d'aller apporter des vivres au village de Stary Saltiv. Il y a un réservoir d'eau, un gros lac, quoi. Et d'un côté, il y a les Ukrainiens et de l'autre, il y a les Russes. Donc c'est un village qui est souvent en proie aux bombardements, aux tirs, aux snipers, etc. Et lui, avec son camion qui n'est pas du tout blindé, c'est un gros camion où il emmène des vivres aux gens, et quand il peut, notamment aujourd'hui, il va essayer d'en extraire quelques-uns de leur maison, ceux qui veulent fuir. Donc là, on se trouve à côté du périphérique. Il attend des policiers, en fait, parce qu'il y va seul, mais la route qu'il emprunte aujourd'hui, c'est une route un peu un itinéraire bis, puisque les Russes sont très très proches de l'autoroute principale, ce qu'ils prenaient avant, et comme les bombardements se sont intensifiés, il est obligé d'emprunter cette route. Mais comme il peut être miné, il peut y avoir des dangers, il préfère y aller avec des policiers.
Et ce volontaire, nous l'avons trouvé grâce à Maxime, c'est notre fixeur, la personne qui traduit, mais qui trouve des histoires, qui est un local, il a plein de contacts.
Donc il a travaillé en amont, il a trouvé plein de contacts avant de venir ici. Il est tombé sur Andrei en fait, et il lui a demandé si on pouvait le suivre. Tout ça est grâce à Max, notre ange gardien, meilleur fixeur de la Terre.
Là, on est en pleine évacuation en fait. Les volontaires qu'on suit, après avoir distribué les vivres et les denrées qu'il ramenait pour les gens, il va chercher quelqu'un. Attends, je t'arrête, je fais un plan. Désolé. Il faisait un plan en fait, avec les volontaires, et derrière lui, une frappe récente à environ 2 km derrière lui. Donc en fait, c'est les contextes dans lesquels il bouge. C'est des frappes qui sont quand même constantes. La nuit dernière, on a rencontré une famille qui est dont la femme nous a raconté que si elle était restée dans un appartement, la frappe l'aurait frappé quasiment dans son lit en fait.
C'est dur de bouger avec cette CG pare-balles et tout. Merde, je sais pas.
Là, tu viens d'entendre passer un Grad. C'est un camion militaire avec des missiles en fait à l'arrière, et qui se dirige dans une direction qu'on ne dira pas pour protéger sa position. C'est un équipement militaire qui permet justement de mener ces combats d'artillerie extrêmement lourds qui se vivent ici à Kharkiv. Voilà, c'est la démonstration de sécurité. On prend l'avion pour rentrer à Paris. Voilà, ça me fait toujours flipper les avions. J'ai toujours très très peur en avion, mais ces derniers temps, on l'a pris à peu près tous les 15 jours. C'est toujours quelque chose de rentrer.
On a rencontré Natalia, sa fille Vika, qui a 13 ans. Et c'est une rencontre qui marque énormément, évidemment. Elles étaient dans une école, dans une ville au nord-est de Kharkiv, le 13 mars, pour se protéger des bombardements. Et là, il y a un soldat russe qui a débarqué, ivre ou drogué, et qui a violé la fille de Natalia, la sœur de Vika, qui s'appelle Anya, qui a une trentaine d'années, qui avait dans ses bras sa petite fille de 5 ans. Et Natalia nous explique
la nuit d'horreur de sa fille, la nuit d'horreur aussi pour elle parce que le soldat russe l'a détenue, violée, mutilée pendant toute la nuit. Et elle, évidemment, elle pensait que sa fille était morte. Elle la voit revenir le matin avec les cheveux coupés, avec des coups de couteau dans la gorge. Et dès le lendemain, elles sont parties à pied vers Kharkiv, sous les bombes, sous les tirs. Anya, elle est partie dans un pays européen, elle est en sécurité avec sa petite fille. Et Natalia, Vika et leur frère, qui étaient aussi présents cette soirée, cette nuit-là, vivent dans des caves, dans des sous-sols d'immeubles depuis 2 mois, dans un des quartiers les plus bombardés de Kharkiv. C'est sûrement, à mon avis, un des témoignages qui nous aura le plus marqué depuis un mois et demi qu'on travaille en Ukraine. Ce qui est le plus dur dans cette histoire, c'est que c'est une famille qui a très peu de moyens et qui habite devant l'école.
Préparez-vous pour le décollage.
Où s'est passé ce drame. Et c'est-à-dire que même au retour, quand Anna va revenir parce qu'elle veut revenir, tous les jours, ils passeront devant l'école. Tous les jours.
Salut Yves, bon là on est de retour à Paris, là je suis de retour chez moi. Là c'est plutôt les bruits des oiseaux et de la pluie qui ont placé un peu les bombardements, des choses comme ça. C'est toujours étrange quand on rentre puisqu'on est un peu sur ces gardes encore et pourtant on est à Paris, enfin on est en sécurité, on est très loin de tout ça. Ça me dure un petit peu de temps avant de décrocher un peu de tout ça. Effectivement on a vécu des choses un peu fortes cette fois-ci, c'était très intense. C'était un peu de l'artillerie tout le temps. Pour trouver des histoires, il fallait aller au milieu des bombes. Enfin, nous, nos collègues aussi, tout le monde, évidemment, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses. Quand on y est, Kharkiv notamment, il faut se dire que pour trouver une histoire, il faut la chercher sous les bombes, quoi. Et j'admire aussi les travaux de nos collègues qui étaient avec nous, les France TV. On était même avec Eric Vouvet, qui était génial, un photographe. Bon, franchement, ces rencontres-là, on les garde. Après toutes ces histoires, on met à peu près, moi, je mets quelques jours à décrocher, c'est pas qu'on est traumatisé, c'est que, en ce qui me concerne, on réfléchit à ce qu'on aurait pu faire, ce qu'il nous a fallu, et des sujets dont on n'a pas pu traiter encore. Quand on y retournera, est-ce qu'on aura envie d'y retourner? Parce que c'est à chaque fois un petit sacrifice, quoi. On laisse un petit peu de sa personne sur place, quoi. Quand on part, on a l'impression d'abandonner les gens, quoi. Enfin, c'est vraiment ces sentiments-là, surtout avec notamment les fixeurs. Nous, avec Maxime et Oksana, nos fixeurs, les personnes qui traduisent, qui sont aussi journalistes, en fait, et qui nous aident à trouver les histoires et qui nous racontent un peu leur culture et leur vie, quoi, dans leur pays, on les laisse un peu derrière. Et là, notamment, je te raconte un peu ce que j'ai fait en rentrant. C'est que, bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maxime, notre fixeur. Et je suis allé ce week-end à la FNAC imprimer des photos de tout notre voyage. Alors, de ce voyage-ci, mais aussi celui de la dernière fois où on était avec sa copine Oksana. Et je lui ai fait une compilation des best-of, quoi, des moments ensemble, depuis le début de notre travail, de notre collaboration. Enfin, ils vont les recevoir aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je l'ai envoyé avec une autre équipe, Elise Phillips, et avec Florivet, qui arrive aujourd'hui même à Kiev, et qui ramène ce cadeau.
Merci d'avoir écouté cet épisode exceptionnel du service reportage. Bien sûr, on remercie Juan Palencia et Jérémy Père pour leur participation. On espère pouvoir vous proposer d'autres épisodes dans ce genre. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à nous le dire en commentaire. Vous pouvez retrouver le service reportage sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM.